présidence.
Bienvenue à tous pour ce 10e numéro de présidence, votre émission politique sur les ondes de Transistor. 10 numéros de présidence, 100 jours avant les premiers tours des élections présidentielles, un mois de janvier aux chiffres très symboliques donc. La campagne présidentielle est lancée, et bien inspiré serait celui capable de donner les deux candidats que les Français qualifieront pour le second tour, tellement les dés ne semblent pas être joués. Si les sondages donnent toujours François Hollande en tête, l'écart se réduit avec Nicolas Sarkozy, alors que Marine Le Pen et François Bayrou restent de sérieux prétendants. La campagne présidentielle rentre dans sa phase décisive, et Présidence a décidé de faire peau neuve pour vous proposer plus de décryptage et plus d'analyse pour vous permettre de faire votre choix. Depuis la rentrée de janvier, ce sont donc de nouvelles chroniques qui font leur apparition dans l'émission. Lors du dernier numéro, vous avez pu découvrir la voix de Pauline et sa chronique, le portrait de la semaine. Cette semaine, je vous propose de découvrir une nouvelle rubrique, le Zoom politique. Dans le Zoom politique, je décrypterai pour vous chaque semaine l'actualité de la campagne présidentielle en revenant sur le chiffre, le mot, l'événement, la polémique ou encore l'alerte rouge de la semaine. C'est à découvrir après l'interview centrale de présidence. Cette semaine, c'est un historien, cofondateur et rédacteur en chef de 20e siècle Revue d'Histoire depuis 1984, également membre du Modem depuis sa création en 2007, à qui a d'ailleurs été confiée la mise en œuvre de l'université populaire du Parti centriste depuis 2009, qui a pris place derrière le micro de présidence. Bonjour Jean-Pierre Rioux.
Bonjour.
Avec vous, nous parlerons de la pertinence du clivage gauche-droite et de la place des centristes dans la vie politique française d'hier comme d'aujourd'hui. Autour de la table, c'est Jérôme.
Bonjour à tous.
Qui mènera l'entrevue alors qu'Antoine.
Bonjour.
Nous fera rire, comme il sait si bien le faire en fin d'émission, avec son billet d'humour et d'humeur. Alors ne sont pas là en studio Pauline, rentrée quelques jours en Normandie, et Amos, qui est bien arrivé à Jérusalem. Mais ne vous inquiétez pas, magie de la technique, ils nous ont tous les deux fait parvenir leur chronique. D'ailleurs, presque en direct de Jérusalem, nous retrouvons notre Charles Landerlin à nous, Amos, pour son carnet de campagne.
Le Concordia, c'est ce paquebot de croisière qui s'est pris un rocher en pleine coque, qui a sombré. La France, c'est ce pays qui s'est pris en pleine poitrine la perte de son triple A. Et du Concordia à l'Hexagone, les capitaines semblent bien incapables. Non pas que Sarkozy ait déserté dans la tempête, mais depuis 5 voire 10 ans, il manœuvre bien trop près des zones à risque. François Hollande, son pédalo résistera peut-être aux vaguelettes du printemps, mais à l'heure des tsunamis, quand le pays entrera pour de bon dans la saison des tempêtes, que pourra-t-il bien faire? Rien, si ce n'est assister au naufrage français qui s'annonce, à la débâcle qui risque de le laisser, encore, impuissant. À 3 mois de l'élection, tout floue le camp. Si Sarkozy ne prépare pas quelque chose, un piège ultime, un karcher magique, c'est qu'il va vraiment très, très, très mal. Dans un état de dépression intense, qu'il est hors-jeu, apathique, plus faible qu'un Jospin de 2002. Et même s'il venait à sortir de son chapeau à nouveau travailler plus pour gagner plus, une Carla encore plus jeune, il semble bien trop tard pour redresser la funeste trajectoire de sa sombre campagne. Les Français n'en veulent plus, n'en peuvent plus, tout simplement. Fin de règne pathétique qui voit le plus mal aimé des présidents de la Ve République chercher à préserver un semblant d'honneur à son mandat, comme s'il avait appris, trop tard, que l'histoire existait. À côté du triste sire, ils sont 3, voire 4, à jouer dans la cour des grands. J'ai nommé Hollande, Bayrou, Le Pen, ça fait 2 François, une Marine, vive la diversité, et un Jean-Luc qui pointe son aide résistant. La dynamique est à la contestation, au refus de l'UMPS, au grand chamboule-tout des révolutions. L'extrême droite est comparée à l'extrême gauche qui tient un discours proche de l'extrême centre. A priori, rien ne va plus. Le peuple, les oubliés de la mondialisation, les petites gens, ce sont les cibles principales des outsiders qui aspirent à briser le monopole des puissants de la Ve République, Parti socialiste et droite parlementaire. Il y aurait les candidats du système, Hollande et Sarkozy, et les hommes et femmes du renouveau capables de briser 30 ans de déclassement français, Le Pen, Bayrou, Mélenchon. À cette ligne de partage systémique, on peut opposer une autre séparation, cette fois plus traditionnelle, gauche-droite. On retrouverait la grande famille de la droite divisée en 3 branches. Marine Le Pen pour un étrange cocktail clairement dégueulasse, à base de vrai nationalisme teinté de fausse conscience sociale. Nicolas Sarkozy, le funambule des droites qui n'arrive plus, mais plus du tout, à réaliser la synthèse entre libéralisme et autoritarisme qu'il avait fait triompher en 2007. Et François Bayrou, droite des valeurs qui se construit en fait comme le vrai héritier du général de Gaulle, malgré une filiation toute giscardienne. La droite serait donc en totale récomposition, avec trois champions, dont un seul serait peut-être en mesure de l'emporter en mai, François Bayrou, qui a le mérite de la constance. Face aux trois droites, les deux gauches, celle du centre qui s'en mêle, François Hollande qui veut embaucher ou pas des professeurs, qui veut supprimer ou pas le quotient familial, qui ne veut certainement pas changer le monde. Et puis la gauche, fille du PC, celle du Front de Gauche, peut-être petite fille du Front Populaire, pour le retour de la retraite à 60 ans, résolument du côté des travailleurs, porté par le tribun Mélenchon qui prouve à chaque meeting sa force d'orateur, sa volonté sans faille, son lexique de l'injure aussi. Un broglio des étranges lignes de partage de la campagne. À l'heure des projets de législation du mariage homosexuel, on a hâte de voir l'enfant de Hollande et Mélenchon face au petit monstre issu de l'union Le Pen-Bayrou-Sarkozy, à moins qu'il ne fasse parier sur l'enfant Sarkozy-Hollande contre le rejeton anti-système de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, parrainé par François Bayrou. Allez savoir s'il ne risque pas de ressembler à Nicolas Dupont-Aignan avec la voix de Philippe Poutou. C'est que le bateau part vraiment à la dérive. Chez les écologistes, la campagne, elle prend totalement l'eau. Orage de pluie radioactive sur Eva Joly, à qui l'on demande même de retirer sa candidature. C'était pourtant une jolie idée que de rendre férié l'Aïd el-Kébir et Yom Kippour. Malheureusement, pour Eva Joly, elle semble vivre une campagne pleine de jours fériés, absente qu'elle est du cœur de l'opinion. Alors, comme l'ancien porte-parole de l'UMP Dominique Payet, on se prend à rêver d'un étrange second tour, Bayrou-Marine Le Pen, avec les commentaires sur Twitter de Nadine Morano. Un Béarnais président et un PS en lambeaux, des législatives de tous les dangers, une extrême droite plus forte que jamais, Hollande à qui on couperait la tête. Alors le bateau de la campagne 2012 aura définitivement rejoint le Concordia, parmi les épaves de l'histoire.
Merci Amos. Alors depuis la rentrée de janvier, vous l'avez constaté, Présidence change de peau pour vous offrir plus de décryptage, plus d'analyse de la vie politique française, alors que la campagne présidentielle est entrée dans une nouvelle phase, celle des 100 jours avant le premier tour. Plus de décryptage, plus d'informations pour vous permettre de faire votre choix les 22 avril et 6 mai prochains. Pour cela, de nouvelles rubriques. Cette semaine, vous allez découvrir le zoom politique qui passe au scalpel l'actualité politique de ces dernières semaines. Et lors du dernier numéro, vous avez découvert le portrait de la semaine et la voix de Pauline. Lors de chaque émission, en effet, Pauline va passer au révélateur, ces femmes et ces hommes politiques qui, candidats ou non, jouent un rôle important dans la campagne présidentielle. Après Eva Joly, lors du dernier numéro, il est temps de découvrir le portrait de la semaine. Et cette semaine, Pauline, tu t'es intéressée à Nicolas Dupont-Aignan, je crois.
Tout à fait. Donc, dans un article en ligne en date du 10 janvier dernier, Anne-Laetitia Béraud, journaliste pour 20 minutes, formule « Si les sondages évaluent actuellement Nicolas Dupont-Aignan autour de 0%, celui-ci y croit pourtant, affirmant que c'est juste un problème de notoriété qui s'ajustera lorsqu'on bénéficiera d'une égalité de traitement dans les médias. Et comme à Transistor, nous sommes pour l'égalité de traitement des candidats à la présidentielle, c'est aujourd'hui Nicolas Dupont-Aignan qui, justement, est l'objet de notre portrait de la semaine. » Né le 7 mars 1961 à Paris, Nicolas Dupont-Aignan est maire de Hyères, dans l'Essonne, depuis 1995 et député depuis 1997. D'abord membre du Rassemblement pour la République, puis du Rassemblement pour la France, il rejoint ensuite l'UMP, se prononce pour le non au référendum de 2005 sur le traité établissant une constitution pour l'Europe et rompt finalement avec l'UMP de Nicolas Sarkozy en janvier 2007. C'est pourquoi il siège désormais sur le banc des non-inscrits de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il préside Debout la République, parti politique se réclamant du gaullisme, et il co-préside le parti européen EU Democrats, Alliance pour une Europe des démocraties. Ce qu'il faut retenir de sa rupture avec l'UMP, c'est qu'il tente, dans la foulée, de se présenter à l'élection présidentielle de 2007. Mais je dis bien « tente ». En effet, il lui manque alors les 500 signatures nécessaires à la candidature au présidentiel. Cependant, le petit bonhomme a depuis lors fait du chemin. Il le dit lui-même « tout l'enjeu, c'est de me faire connaître, pour dire aux Français qu'il n'y a aucune fatalité à l'échec. C'est vrai qu'entre la misère existentielle des Français et la dégradation générale de leurs conditions de vie d'un côté, et la misère politique de Dupont-Aignan et sa quasi-inexistence médiatique d'un autre côté, la comparaison est bonne, le parallélisme de situation flagrant, le constat d'échec fumant. Bref, quoi de mieux qu'un loser pour représenter un peuple de perdants ? Non, je suis dure. Nicolas a de bonnes idées. Parfois, en tout cas. Ainsi, dans un article sur son blog, en date du 9 novembre 2011, le gaulliste convaincu écrit « Mener une politique pour la France et les Français, qui serve non seulement ce grand peuple aujourd'hui bien fatigué et déboussolé, mais également une certaine idée de l'homme et de la liberté des nations. Voilà un projet simple et évident. C'est pourtant aujourd'hui un projet de résistant, et heureusement nous sommes de plus en plus nombreux à le défendre. Ah, servir la France et sa grandeur, sans oublier de se faire le défenseur acharné de ces belles et dignes notions que sont l'humanisme et la liberté. Quel programme précis, personnel et inédit. Et c'est comme ça qu'il veut nous convaincre. Pourtant, à l'en croire, il a toutes ses chances. Il est vrai que les statistiques sont avec lui. Confiant, il affirme « Chaque fois que les gens me connaissent, ils votent pour moi. Au régional, les sondages me donnaient à zéro et on a frôlé les 5%. » Cet ancien proche de Philippe Séguin, de Charles Pasqua et de Philippe de Villiers, qui se revendique souverainiste et gaulliste social, ne serait-il pas aussi quelque peu marseillais, entendons par là prompt à exagérer ou trop optimiste ? À moins qu'après les emplois fictifs, les Français n'aient droit aussi aux électeurs fictifs. Dans un article en ligne en date du 26 décembre dernier, des journalistes du Monde s'intéressent à ces candidats de droite qui gênent Nicolas Sarkozy. Ce dernier, disent-ils, n'a jamais eu qu'une stratégie électorale, être le seul candidat de son camp, pour tenter de virer en tête au premier tour et créer un élan pour le second. À 4 mois de l'élection présidentielle, force est de constater qu'il n'a pas réussi à faire le vide. Mais force n'est-il pas de constater aussi que dans la ronde des Boutins, Morin et autres Villepins, Dupont-Aignan ne rime avec rien ? En somme, peut-il vraiment prendre, ou au moins disputer, des voix à Nicolas Sarkozy ? En fait, Dupont-Aignan situe lui-même une bonne part de son électorat potentiel à la droite de la droite, chez des électeurs sensibles au discours économique anti-européen martelé par Marine Le Pen, mais qui ne veulent pas s'identifier au Front National. Et il se targue, en ce début de campagne, de disposer d'un socle de 1% solide dans les sondages. Mais ce n'est pas avec ça qu'il ira loin. Non, à bien y réfléchir, seul son prénom, Nicolas, est présidentiable. Et pas de chance, il est déjà pris.
Merci Pauline. Grâce à toi, ce gaulliste social, Nicolas Dupont-Aignan, bénéficie enfin de l'égalité de traitement dans les médias, sur Transistor donc. Alors qu'il reste moins de 100 jours avant le premier tour des élections, il serait bien difficile de dire qu'il emportera le duel annoncé, attendu, écrit d'avance, Hollande-Sarkozy, n'aura peut-être pas lieu. En effet, deux candidats sont en embuscade. Marine Le Pen, alors que le Front National n'a jamais été aussi conquérant, et François Bayrou, capitaine d'un modem que l'on croyait atone mais qui semble toujours vivant et bien vivant. François Bayrou, troisième homme en 2007, peut-il réitérer en 2012 l'exploit, voire faire mieux ? Après avoir organisé 2 tables rondes sur qu'est-ce qu'être de gauche et qu'est-ce qu'être de droite, Transistor continue à essayer de trouver, au-delà des polémiques de l'instant, des définitions des principales forces politiques. C'est pourquoi Président s'intéresse aujourd'hui au centre, au centrisme et aux centristes dans la vie politique française d'hier et d'aujourd'hui. Et pour cela, un invité, Jean-Pierre Rioux.
Jean-Pierre Rioux, bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Rioux, vous êtes professeur agrégé d'histoire, spécialisé dans l'histoire politique et culturelle de la France contemporaine. Vous avez enseigné à l'Université Paris 10 Nanterre et à l'Institut d'études politiques de Paris, à l'Université de New York. Vous avez également été chercheur et directeur de recherche à l'Institut d'histoire du temps présent du CNRS, puis inspecteur général de l'éducation nationale. Mais vous avez aussi participé, de près ou de loin, à plusieurs organes de presse, puisque vous avez été cofondateur et rédacteur en chef de la revue 20e siècle Revue d'Histoire, membre du comité de rédaction de la célèbre revue L'Histoire, ainsi que d'Esprit et du Mouvement Social, chroniqueur à France Culture, au Monde et à La Croix. Mais ce n'est pas tout, puisque vous avez également écrit de nombreux ouvrages consacrés à différents aspects et différents acteurs de la politique contemporaine de la France, comme Les Bonapartes, Jean Jaurès, Le Front Populaire, Pierre Mendès France, De Gaulle, Pompidou et bien d'autres. Les élèves de classe préparatoire que nous fûmes ont souvent eu connaissance de votre histoire culturelle de la France, que vous avez publiée en 4 volumes aux éditions Seuil avec Jean-François Cirinelli, et de vos 2 tomes sur la France de la 4e République, toujours au Seuil. Votre tout dernier ouvrage est consacré aux personnalités qui ont porté les valeurs du centrisme en France depuis la Révolution. paru l'année dernière aux éditions Fayard. Il s'intitule « Les centristes de Mirabeau à Bayrou ». Justement, vous avez adhéré au mouvement démocrate de François Bayrou dès la création de ce parti centriste, dans la foulée des élections présidentielles de 2007. C'est d'ailleurs vous qui êtes chargé de l'université populaire du MoDem, qui se veut être une boîte à idées pour contribuer à enrichir et à singulariser le projet du parti en vue des échéances électorales, mais aussi et surtout, pour reprendre vos termes, un lieu d'information et de formation, de partage et d'échange et de démocratisation du savoir. Concrètement, votre université populaire propose des cycles de conférences. Enfin, vous avez été chargé de l'élaboration du projet scientifique de la future Maison de l'Histoire de France et vous êtes aujourd'hui le directeur du comité d'observation scientifique de cet établissement qui verra le jour à l'horizon 2015, je crois. Bref, une vie bien chargée. C'est aujourd'hui plus précisément de la place du centre dans la vie politique française que nous allons parler ensemble, si cela vous convient. Tout d'abord, une première question sur le clivage gauche-droite. Vous le savez, ce clivage a beaucoup marqué, qu'on le veuille ou non, la vie politique en France, et on le fait généralement remonter à la Révolution française, avec la place qu'occupaient les différents représentants du peuple français, en caricaturant républicains contre monarchistes au XIXe siècle, l'affrontement entre les deux grands blocs sous la guerre froide. Ma question est donc, est-il encore pertinent de parler d'un clivage entre la gauche et la droite depuis la chute du mur?
Bien sûr, il est pertinent parce que c'est un héritage historique incontournable, pour parler un peu vulgairement. Droite et gauche sont, je dirais, une sorte de scène primitive de la vie politique française. C'est à la fois une construction idéologique, une construction en termes de représentation et de culture politique, et en même temps c'est une réalité partisane, une réalité électorale, une réalité transmise et héritée, famille de gauche, famille de droite, mon père était de gauche mais moi je suis de droite, et réciproquement, il y a une scène primitive depuis la Révolution dans ce pays qui serait au fond le grand partage, qui serait constamment la lutte entre deux France, qui serait l'inévitable et un peu monotone lutte franco-française aussi, intestine, n'est-ce pas? Comment ce pays va trouver un équilibre, va adopter un système politique raisonnable qui éviterait que la démocratie soit d'abord un combat de rue, et soit finalement un duopole, n'est-ce pas, accaparé par deux grandes formations politiques, et évidemment la Ve République n'a fait qu'accentuer le phénomène. Alors, vous me dites, est-ce que ça subsiste encore? Bien entendu, ça existe encore. Il se trouve que l'évolution, je dirais, économique, culturelle, sociale, financière, que sais-je, du pays et du reste du monde, fait que, eh bien, les Françaises et les Français n'y croient plus. Alors, n'y croient plus majoritairement.
Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on utilise, un argument qu'on utilise souvent pour remettre en cause cette pertinence du clivage gauche-droite. Par exemple, avec Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan à droite, et Jean-Pierre Chevènement ou Arnaud Montebourg et son concept de démondialisation à gauche, on a de plus en plus tendance à penser que le clivage est ailleurs. Surtout depuis les résultats du référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005. Aujourd'hui, les extrêmes affirment qu'il existe un système UMPS et que le véritable clivage se situe davantage entre les mondialistes, j'aime pas trop ce terme, et les souverainistes. Pensez-vous que ce clivage soit plus pertinent ou ait une autre pertinence ?
En tout cas, c'est le clivage tel que nouveau, tel qu'il ressort, je dirais, des sondages d'opinion. Parce qu'un trait tout à fait intéressant, c'est qu'en gros, depuis une quinzaine d'années, et même peut-être 20 ans même, on considère, et là on a l'attestation d'une assez bonne étude récente de la Fondation Jean Jaurès, n'est-ce pas, de novembre 2011, qui explique, eh bien, sur le clivage droite-gauche, les Français, quand on les interroge, les Françaises et les Français, en gros, pour les deux tiers d'entre eux, ils disent ça n'est pas cela qui va être la respiration politique qui nous permet d'aborder et de régler les problèmes qui se posent au pays. Bon, voilà. Et seul à peu près un tiers, hein, des personnes interrogées disent « oui, après tout, ça c'est pertinent, on va essayer de faire avec et de continuer comme ça ». Plus intéressant encore, c'est que dans cette désaffection, donc les Français ne croient plus au clivage droite-gauche, hein, aux deux tiers d'entre eux. Bon. Ceux qui y croient encore le plus fermement, ce sont ce sont les socialistes et les sympathisants socialistes qui croient que c'est ça qui est structurel et ça qui est le plus important au nom de l'égalité. Au nom de l'égalité. Ça ne veut pas dire que s'ils ne sont plus croyants, ces Françaises et ces Français ne sont plus pratiquants. Parce qu'au bout de la course, à l'heure du choix, et dans le cadre constitutionnel que nous avons, et avec le système du scrutin majoritaire, ils sont bien forcés au bout du compte, et tout ce qui est médiatique, tout ce qui est culturel, tout ce qui est événementiel les y pousse, puisque c'est toujours l'attente du match final, n'est-ce pas ? C'est toujours l'attente du second tour avant le premier, n'est-ce pas ? Et qui fait que, effectivement, un peu par lassitude, ou pour, après tout, c'est la dernière fois, mais pourquoi ne pas s'aligner sur ce duopole gauche-droite, il reste encore beaucoup de pratiquants. Et quand on pose la même question, n'est-ce pas, à ces incroyants, on en trouve 3 sur 4 qui disent, après tout, je me résignerai bien à l'entrée du bureau de vote d'aller dans les second tours, puisque c'est ainsi qu'est la règle, d'aller... Bon. C'est une situation en pleine évolution, et c'est dans cette évolution-là qui est plus que politique, qui est sociale, qui est le rapport entre l'individu et la collectivité, que, effectivement, moi, il m'a semblé qu'il y avait de nouveau une chance ou un intérêt pour quelque chose que les centristes ou les gens qui se sont posés au centre ont seriné depuis la Révolution française.
Eh bien, justement, voilà, le centre, voilà, là-dedans, voilà. Dont vous dites que, l'histoire du centrisme, vous dites que c'est une histoire répudiée. Oui. Alors, le centre, en ce qu'il appelle à faire collaborer la droite modérée et la gauche modérée ensemble et rejette une extrême droite réactionnaire et une extrême gauche révolutionnaire. Alors, est-ce que le centre est condamné à rester entre ou est-ce qu'il peut être autre ? Et dans ce cas-là, quelle serait sa valeur fondamentale ou ses valeurs que ni la gauche ni la droite ne revendiqueraient ?
Alors, entendons-nous. Dans une structuration de la vie politique avec, je dirais, traduction constitutionnelle et institutionnelle aujourd'hui et aggravée par le cadre de la Ve République. Ça veut dire tendance au duopole, UMPPS pour dire vite, et scrutin majoritaire à tous les étages. Bon, très bien. Nous vérifions aujourd'hui, je dirais, une difficulté de fond ou une interrogation de fond de la vie politique française depuis la Révolution, c'est qu'au fond, il y a à la fois, et c'est l'essentiel de ce livre que vous voulez bien citer, il n'y a pas de centre organique entre le droit de gauche dans l'histoire politique française.
C'est-à-dire qu'on a l'impression, différentes ailes, démocrate, radicale, libérale, on a l'impression que c'est une nébuleuse qui n'a rien à
voir. Voilà, donc ce n'est pas une nébuleuse, c'est une famille politique, c'est la seule forme, la seule mouvance politique qui arbore assez fièrement le mot famille, n'est-ce pas, plus que parti ou plus que mouvement. Effectivement, il y a 3 souches, il y a des libéraux, il y a des radicaux, il y a des démocrates chrétiens, bon, qui ont évolué au cours des décennies. Alors, les valeurs communes, on va y venir. Donc, il n'y a pas de centre organique. Moi, je dis toujours, en partant de la petite étude que je viens de faire, le centre est toujours improbable dans ce pays, puisqu'il y a souveraineté du gauche-droite, tacite, mais avec les réserves qu'on vient de faire en termes d'évolution récente des dernières décennies. Il y a toujours eu un centrisme de fait, puisque à un moment, pour composer face aux difficultés, aux problèmes, il y a toujours eu un centrisme de fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à un moment donné, dans l'évolution et pour régler les problèmes, jouer la balle au centre comme au football, n'est-ce pas, et essayer de recomposer des majorités qui aborderaient vraiment les problèmes et tenteraient de les régler. Alors il y a centrisme, centre improbable, centrisme de fait, au bout du compte, puisque même que qu'on soit à droite ou qu'on soit à gauche, en termes de gouvernement, il faut bien à un moment appeler des gens qu'on peut baptiser centristes, qui aident à reconfigurer les majorités, question par question. Hein. C'est vrai sous la Troisième République, c'est encore vrai sous la Quatrième, c'est moins vrai sous la Cinquième.
Vous parlez d'un âge libéral, d'un âge gouvernemental et d'un âge présidentiel.
Alors dans l'âge présidentiel, c'est beaucoup plus compliqué, parce que au fond, au point de départ, le grand rassembleur, c'est De Gaulle, bien entendu, et donc là, par définition, il transgresse le droit des gauches. C'est pas la gauche, la France, c'est pas la droite, la France, il est De Gaulle, etc. C'est moi, sous-entendu. Mais Donc centre improbable, centrisme de fait, mais là moi c'est ce qui m'a le plus frappé, parce que moi, je ne suis pas d'originaire de cette famille politique, la question n'est pas là. Moi en les étudiant un peu, les centristes sont increvables dans la vie politique française, c'est ça la question.
Ils renaissent toujours, les phénix.
Voilà. Ils renaissent toujours, c'est peut-être des phénix. Alors vous me direz, au présidentiel ils sont toujours placés et jamais gagnants, tout à fait d'accord, mais il reste que... Il y a eu une sorte de croisée des chemins, et là je le maintiens, c'est dans ce petit livre, il y a eu en 2007 une sorte d'électrochoc, de croisée des chemins, puisque pour la première fois, on a vu un centriste qui ramène 7 millions de voix, qui remplit des zéniths, et qui repart aujourd'hui, à peu près sur les mêmes bases, hein, et avec, semble-t-il, une capacité, à l'heure où nous parlons, hein, je ne préjuge pas des semaines qui viennent, ou des mois qui viennent, mais qui est capable de remobiliser un électorat, et sur des thèmes qui sont les mêmes. Hein. Bon. Alors, vous me dites, qu'est-ce qui les rassemble, au fond ? Ça a toujours été ces centristes... Des gens qui ont dit, écoutez, il faut qu'on fasse le primat de l'intelligence sur l'idéologie et sur l'absolu en politique. Bon, ils ont toujours dit ça. Ils ont toujours dit, l'âme de la démocratie, c'est la délibération. Et pour utilement délibérer, c'est pas uniquement la représentation, c'est pas uniquement la délégation de souveraineté à travers des élus, c'est pas non plus la participation à tout craint, etc., etc. C'est la délibération. Et pour qu'on ait une vraie délibération, il faut des citoyens éclairés. Alors c'est des gens qui de A à Z, alors là je dirais depuis Condorcet et depuis Guizot, disent la solution c'est éclairer les gens. Et c'est le mot de Guizot, n'est-ce pas, qui n'est pas du tout enrichissez-vous, mais qui est éclairez-vous, virgule, enrichissez-vous. Et enrichissez-vous à tous les points de vue.
Ah ouais, on coupe souvent la fin.
Voilà,
la phrase, ouais.
On enseigne seulement le bon manque de phrase, n'est-ce pas, du malheureux Guizot, qui a échoué politiquement, on est bien d'accord, mais qui, dans sa tentative de juste milieu et d'éclairer les gens et d'arriver, je dirais, à une vraie souveraineté, appelons-la tricolore. Bon,
ouais. Il y a une autre définition qui est donnée par Marc Sangnier, et c'est celle que reprend souvent François Bayrou à son compte. Quand on lui demande quel est l'objectif du centre, il répond souvent en remplaçant le mot centriste par démocrate et en reprenant à son compte donc cette citation de Marc Sangnier qui définit la démocratie comme, je cite, le système politique qui vise à porter le plus haut la conscience et la responsabilité des citoyens. Alors en quelques mots déjà, est-ce que vous pourriez nous rappeler éventuellement qui est Marc Sangnier ? Et surtout, est-ce que cette phrase peut servir de maxime pour la... conception centriste de la démocratie, selon vous?
Oui, parce que Marc Sangnier, c'est l'héritage, je dirais, du Sillon, mais d'abord une sorte d'adaptation des réalités du christianisme ou de la catholicité, mais du christianisme plutôt, n'est-ce pas, en termes de démocratie au début du XXe siècle, toutes choses qui ont configuré quelques élus, quelques militants politiques dans les années 20 et 1930, qui ont fait aussi, je dirais, une capacité de résistance considérable au malheur du temps. On oublie toujours de dire que l'homme qui succède à Jean Moulin à la tête du Conseil national de la résistance s'appelle Georges Bidault. C'est un petit prof d'histoire, n'est-ce pas, qui dans l'Aube, au moment de Munich, disait halte-là, nous on joue plus, n'est-ce pas, et la preuve, ils ont pu le jouer. Bon, alors on peut penser tout ce qu'on veut de Georges Bidault ensuite, sur ses fins autant de l'Algérie française et de l'OAS, on est bien d'accord. Mais il y a quelque chose là d'assez nouveau qui est, au fond, le centrisme a été très ragaillardi, à la fois par des libéraux qui ont voulu appliquer la liberté à tous les étages, économiques, politiques, culturellement, des radicaux qui ont appris la laïcité et qui ont appris, je dirais, les Lumières, et des démocrates chrétiens qui ont appris le respect absolu de la personne.
Les institutions de la Ve République condamnent le centre à s'allier soit avec la droite, soit avec la gauche, du fait du scrutin majoritaire. Et en réalité, depuis 58, depuis la création de la Ve République, ça s'est toujours fait avec la droite. Alors on se souvient du bon mot un peu cruel de François Mitterrand, le centre, ça n'est ni de gauche,
ni de gauche, je sais.
Alors comment expliquez-vous ce tropisme vers la droite sous la Ve République ?
Non, c'est pas du tout un tropisme. D'abord, il faut dire que les centristes, quoi qu'on pense, n'ont pas toujours été aussi ridicules qu'on croit à l'élection présidentielle. 15% pour le Canu en 65, 19% pour Raymond Barre, et puis Bayrou en 2007-18. Bon. Autrement dit, ils sont toujours à l'affût, et la présidentielle n'est pas nécessairement l'élection guillotine pour eux. Bien, très bien. Il est vrai que le scrutin majoritaire à deux tours, en termes de législative, les condamne à un choix. Alors, ils ont sans cesse configuré, d'abord en aidant l'installation de la Ve République, bon, très bien, hostilité avec les gaullistes, d'accord. Puis, on prend la bouée de sauvetage au temps de Valéry Giscard d'Estaing, la droite libérale, orléaniste, etc., leur tend les bras, il les ouvre. Bon, s'ensuit, après le temps de Raymond Barre, s'ensuit dans les années 80, effectivement, donc 30 années de gouvernement et de complicité électorale dans les circonscriptions avec la droite, bien. Une droite à la fois post-gaulliste, chiracoïsée, puis sarkozisée, etc., etc. Et en même temps, subsiste toujours, au fur et à mesure que l'UDF perd de son audience, n'est-ce pas ? Puisque l'UDF, ça part de 18% des suffrages pour arriver à 4%, hein, s'autonomise au sein de l'UDF. À la fois, les libéraux rallient les majorités de droite, aucun problème. Les radicaux se divisent, n'est-ce pas ? Puisque vous avez les radicaux qui suivent l'union de la gauche, et puis des radicaux dits réformateurs, autant de Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui sont de vrais...
Toujours aujourd'hui, il y a Baylet et Borloo aujourd'hui.
Ça donne Borloo, etc. Qui sont de vrais réformateurs. Ah, bon. Et puis, donc, la souche démocrate chrétienne, je dirais, est de plus en plus incarnée par François Bayrou, mène le combat au sein de l'UDF, et donc, en rétrécissant l'angle d'attaque, en arrivant à dire, à partir de 1999 pour Bayrou, et de 2002 surtout, après la victoire de Chirac à la présidentielle, la stratégie de François Bayrou a été de dire, c'est à travers la présidentielle, et pas ailleurs, que nous pourrons tenter d'avancer nos propositions.
Alors vous l'avez dit aujourd'hui, il y a des centristes un petit peu partout. La famille centriste paraît très éparpillée. Il y a des centristes à l'UMP, il y a des centristes au PS. Nous avons deux centristes candidats à l'élection présidentielle de 2012, François Bayrou et Hervé Morin. Récemment, Philippe Douste-Blazy a annoncé son soutien à François Bayrou, et même Christine Boutin, qui avait quitté l'UDF en 2001, je crois, dit que si elle n'a pas ses 500 signatures, ses 500 parrainages, elle rejoindrait François Bayrou. Ces ralliements réels ou possibles vous étonnent-ils ?
Non, il ne m'étonne pas. Ça fait partie, je dirais, des écartèlements de la famille centriste. Je dis que la seule force fédérative aujourd'hui est la seule force de proposition, parce que ça, c'est une, je dirais, une constante centriste. Disent que ça sera toujours le projet contre le programme. Ça sera toujours l'expérience contre l'expertise. Et là, François Bayrou pense qu'il a une relation particulière aux Françaises et aux Français, qui fait que c'est à travers cette relation, qui ne s'exprime qu'à une seule occasion, et qui est la présidentielle, que l'on peut forcer tous les barrages institutionnels, constitutionnels, et former de nouveaux types de majorités. Vieille obsession centriste, n'est-ce pas ? Former de nouvelles majorités.
Oui, il y a quand même une rupture avec François Bayrou sur le fait que... Il dit « Je suis le premier centriste de la Ve République ». Ça m'a marqué, cette phrase.
Oui, oui.
Qui est compris, oui. Comment fonctionnent ces institutions.
Oui, parce que
etc.
c'est le seul centriste en termes de juvénile. C'est le projet dépasse le programme. Le programme est toujours composé et est toujours une addition de composantes. L'idée, c'est qu'on va faire fabriquer. Alors, certains disent un centrisme extrême, n'est-ce pas ?
Bon, oui, on parle d'extrême centre.
Un extrême centre, certains disent, bien entendu. C'est un centrisme d'au-delà. D'au-delà du clivage, d'au-delà de la désaffection pour le droit de gauche et, je dirais, de dépassement et de capacité de proposition nouvelle.
En deux mots,
oui.
Nous avons parlé du centrisme d'hier et d'aujourd'hui.
Oui.
Pour finir, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur le centrisme de demain, peut-être ?
Moi, j'ai déjà dit qu'en 2007, c'était le point d'orgue dans mon livre,
oui.
N'est-ce pas ?
Donc le 2012 ne le sera pas.
Non, mais c'est le moment où les choix stratégiques faits en 2007 par Bayrou seront validés ou non.
Réponse en mai, donc.
Voilà.
Merci à vous, Jean-Pierre Rioux, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de m'avoir invité.
Je rappelle à nos auditeurs votre ouvrage, Les centristes de Mirabeau à Bayrou, paru l'an dernier aux éditions Fayard. Je signale également, pour ceux qui souhaiteraient prolonger cette réflexion, les regards croisés sur le centrisme en France au 19e et 20e siècle, un échec, point d'interrogation, dirigé par Sylvie Guillaume à l'université de Bordeaux, et le centrisme, la politique du juste équilibre, d'Alexandre Vatembella, édité en 2009 par le CREC, le Centre de Recherche et d'Études du Centrisme, centre indépendant de toute formation politique, dont nous donnons les sites internet www.centrisme.free.fr et www.lecentrisme.com.